Vous écoutez, on lit pour vous.
Anxiété, TDAH et TSA. Est-ce qu'un animal de compagnie est la solution pour votre enfant? Un texte de Caroline Kilsdonk, paru le 31 août 2023 dans l'actualité. De nombreux jeunes peuvent bénéficier de la zoothérapie, d'un animal de soutien émotionnel ou d'un simple compagnon poilu à la maison. Mais avant d'adopter un chat ou un chien, voici ce que vous devez savoir. Si votre enfant a des symptômes anxieux, un trouble d'apprentissage ou un trouble du spectre de l'autisme, vous vous êtes peut-être déjà posé la question suivante. Est-ce qu'un animal de compagnie pourrait l'aider? Les chercheurs s'intéressent en effet de plus en plus à la capacité des animaux de compagnie de soulager certains symptômes d'anxiété et autres difficultés d'ordre émotionnel. Je vous présente quelques résultats plus bas. Mais avant de vous lancer dans une telle aventure, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types d'animaux de soutien, chiens d'assistance, animaux de zoothérapie, etc. Certains vivant avec la famille, d'autres non. Et si vous optez pour un simple animal de compagnie sans entraînement, il faut connaître les conditions à mettre en place pour assurer une relation positive et harmonieuse entre lui et les membres de votre famille. Zoothérapie, chien d'assistance, animal de soutien émotionnel. Quelle est la différence? Zoothérapie. Il y a encore peu d'uniformité dans la terminologie utilisée et le terme zoothérapie est employé de différentes façons. Mais dans tous les cas, il s'agit de périodes définies de contact avec un animal et un intervenant, individuellement ou en groupe. La personne qui en bénéficie ne vit pas avec l'animal au quotidien et n'a pas à en prendre soin. Deux types de situations sont possibles. Dans le premier cas, des intervenants et professionnels de la santé psychologique ou physique s'allient à un animal pour atteindre des objectifs thérapeutiques précis dans leurs interventions auprès de diverses clientèles. Ces intervenants peuvent être orthophonistes, psychologues, physiothérapeutes ou psychoéducateurs, par exemple. Et les clientèles peuvent être des gens en réadaptation physique après un accident ou une maladie, des élèves en difficulté ou des personnes avec divers troubles psychologiques. Dans ce cas, on utilise également le terme « thérapie assistée par l'animal ». La présence de l'animal peut, par exemple, faciliter l'expression des émotions par l'enfant chez le psychologue, être rassurante pendant les exercices d'orthophonie et constituer une source de motivation pour se présenter au rendez-vous. On appelle souvent aussi zoothérapie des activités telles que celles que j'ai tenues plusieurs années en CHSLD, en soins de longue durée et en soins palliatifs. Je visitais les résidents avec mes chiens, très sociables et désensibilisés au stress de ce milieu, dans un but général de réduction de la solitude et d'amélioration de la qualité de vie. Dans tous les cas, les principales qualités de ces chiens doivent être une faible réactivité au stress et une grande sociabilité. Animal d'assistance et de soutien émotionnel. Les termes animal d'assistance et animal de soutien émotionnel sont souvent utilisés indistinctement. En général, le chien d'assistance est entraîné afin d'accomplir une tâche pour pallier une incapacité. Par exemple, les chiens guides pour personnes non-voyantes. Les chiens étant capables de percevoir nos signes de détresse, on peut les entraîner à y répondre en adoptant certains comportements, comme déposer sa tête sur le bras de la personne ou l'amener à s'éloigner d'une foule. Un animal de soutien émotionnel, le plus souvent un chien, a pour principale fonction d'apporter du réconfort à des gens présentant un trouble d'ordre mental ou émotionnel. Il s'agit d'un animal bien sélectionné et éduqué, mais il n'est généralement pas entraîné à des tâches précises et concrètes, comme l'est le chien d'assistance. Certaines personnes ont un animal de soutien émotionnel vivant avec elles. Parfois, le chien est au service de plusieurs personnes de manière ponctuelle pour les aider à traverser un moment difficile. Par exemple, il existe des palais de justice qui permettent qu'un chien de soutien émotionnel accompagne une victime d'actes criminels lors de son témoignage ou vienne la réconforter pendant les pauses. Le fait de pouvoir caresser un animal calme et dévoué diminue l'anxiété. Animal de compagnie. Il peut être tentant d'adopter un animal de compagnie, dans l'espoir que sa présence favorise le bien-être des membres de votre famille. Mais cet animal n'aura pas été entraîné spécialement pour aider une personne à faire face à des difficultés. Il faut aussi savoir qu'il est possible que l'animal s'attache plus à un autre membre de la famille, ce qui peut causer déception et frustration. Vous écoutez Anxiété, TDAH et TSA. Est-ce qu'un animal de compagnie est la solution pour votre enfant? Un texte de Caroline Kilsdonk, paru le 31 août 2023 dans l'actualité. Est-ce validé scientifiquement? Bien qu'il y ait de plus en plus d'études sur le sujet, le degré de preuve pour les conclusions présentées ici varie. De plus, chaque situation est différente, alors il faut avoir des attentes réalistes. Pour les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme, TSA, plusieurs bénéfices des chiens d'assistance ont été démontrés, dont une amélioration des interactions et des habiletés sociales, ainsi qu'une meilleure dynamique familiale. Le chien d'assistance influence aussi de façon positive la sphère émotive du jeune, en le réconfortant et en l'aidant à réguler son stress. L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, a publié en 2019 une analyse de diverses études, un document étoffé dans lequel vous pourrez en apprendre plus sur les preuves à l'appui des différentes interventions. L'INES a également évalué les effets d'un animal de compagnie, non entraîné, chez les jeunes atteints d'un TSA. Il est moins certain qu'un tel compagnon réussisse à favoriser les interactions sociales du jeune, mais les études indiquent qu'il a lui aussi un effet positif sur la sphère émotive. Il est source de réconfort et aide à diminuer l'anxiété. Pour les enfants présentant un TDAH, des travaux, dont une étude américaine auprès de 24 enfants, ont montré l'utilité de la thérapie assistée par l'animal. Une intervention cognitivo-comportementale de 12 semaines était plus efficace, plus grande amélioration du comportement social et réduction des comportements difficiles, lorsque l'intervenant était accompagné d'un animal. L'anxiété peut faire partie des difficultés des enfants aux prises avec un TDAH ou un TSA, ou bien venir seul. Des études révèlent que les enfants ayant un animal de compagnie souffrent moins d'anxiété et que la zoothérapie réduit celle-ci. Des chiens d'assistance entraînés à cette fin peuvent s'avérer bénéfiques. Tant pour l'animal de compagnie que pour le chien d'assistance, il faut cependant savoir que, parfois, le lien d'attachement espéré ne se tisse pas entre l'enfant et l'animal. C'est notamment le cas pour une minorité d'enfants atteints d'un TSA, selon l'INES. Ou encore l'enfant ne tolère pas certains aspects de ses contacts avec l'animal, comme le poil ou la salive, ce qui vient nuire au potentiel de l'adoption. Est-ce pour mon enfant? Maintenant que vous connaissez les différents types de relations possibles avec un animal de compagnie, comment déterminer si l'une d'elles serait bénéfique pour votre enfant? Prenez le temps de réfléchir et de bien vous informer, et parlez-en aux enseignants et aux professionnels qui le suivent. Ne vous mettez pas trop de pression et n'oubliez pas qu'un animal n'est qu'un des moyens à votre disposition pour aider votre enfant. Obtenir de la zoothérapie. Si vous êtes intéressé par des services de professionnels travaillant avec des animaux, zoothérapie, il faut vous informer sur les possibilités offertes dans votre région. Tout service professionnel devrait être rendu par une personne ayant les compétences requises et reconnues au Québec, psychologue, orthophoniste, etc. Obtenir un chien d'assistance ou de soutien émotionnel. Les chiens d'assistance sont coûteux parce que leur entraînement requiert beaucoup de temps de la part d'intervenants qualifiés. Certaines fondations, comme la Fondation Mira, les chiens Togo et la Fondation Assista, en proposent sans frais selon certains critères, dont la sévérité des symptômes que présente l'enfant. Il semble en effet approprié d'offrir en priorité ces chiens aux cas plus graves, puisque leur efficacité serait meilleure auprès d'eux, selon une étude québécoise menée sur 90 enfants dans le spectre de l'autisme, publiée l'an dernier. 3 mois après l'adoption d'un chien d'assistance Mira, les jeunes dont les symptômes étaient de modérés à sérieux ont vu leur fonctionnement quotidien s'améliorer encore plus que ceux atteints légèrement. Informez-vous bien sur l'organisme, sa réputation et ses certifications, s'il y a lieu. Le document de l'INES présente plusieurs organismes dans différentes régions du Québec. Les programmes varient, autant en matière de fonctionnement que de clientèle visée. Même si votre enfant est choisi, l'attente peut être très longue, jusqu'à 2 à 3 ans. Adoptez un animal de compagnie. Si vous pensez à adopter un animal de compagnie, n'oubliez pas de tenir compte de la charge mentale, physique et économique supplémentaire. Il s'agit d'un être vivant de plus dans votre famille, et il vient avec ses besoins propres. Je conseille souvent aux gens de d'abord garder régulièrement des chiens d'amis, question de connaître différentes personnalités de chiens et de voir si le mode de vie familial s'y adapte bien. L'animal dont on comble bien les besoins sera un compagnon beaucoup plus agréable. On doit lui faire découvrir une diversité de gens, d'endroits et de situations à un jeune âge, lui donner l'occasion d'avoir de l'activité physique, du jeu libre et de la stimulation mentale, lui fournir une saine alimentation et prévenir les maladies. Les membres de la famille doivent aussi respecter ses limites, en apprenant à comprendre son langage non-verbal et en lui fournissant un lieu confortable où il peut se retirer pour être tranquille. Je vois malheureusement beaucoup trop souvent des gens qui s'embarquent dans cette aventure en choisissant mal leur animal. Espèce, race, élevage, santé, tempérament, ou alors que leur mode de vie ne leur permet pas de mettre en place toutes les conditions favorables à l'établissement d'une belle relation qui, ne l'oublions pas, pourrait durer pour les 15 prochaines années. Dans ma famille, ces conditions ont été réunies seulement une fois que mes 4 enfants ont été plus grands. 12 ans plus tard, l'expérience est encore très positive pour nous, mais j'ai aussi vu de nombreuses adoptions qui ont mal tourné. Pour l'animal et pour l'enfant, mieux vaut mettre toutes les chances de son côté. C'était anxiété, TDAH et TSA. Est-ce qu'un animal de compagnie est la solution pour votre enfant? Un texte de Caroline Kisdonk, paru le 31 août 2023 dans l'actualité.
L'histoire des parkas du Yukon. Un texte d'Agnès Vigé, paru le 9 juin 2023 dans l'Aurore boréale du Yukon. Les parkas du Nord ont une renommée internationale et une histoire millénaire. Ce vêtement traditionnel des régions du Grand Nord existe depuis plusieurs milliers d'années et fait aujourd'hui partie de l'identité du territoire. Le mot « parka » a plusieurs origines. Il serait inspiré des régions de l'Oural, de la langue samoyède, des Nénets, de la toundra, et signifierait « peau d'animal », et des langues Inuktitut et Inupiaq de l'Alaska, où il signifierait « chaleur ». Le parka yukonais est emblématique de la mode canadienne et un indispensable pour la population vivant dans les étendues sauvages, particulièrement pendant les longs et impitoyables hivers au nord du 60e parallèle. Les parkas sont faits pour les gens qui sont actifs, comme les mushers qui font du traîneau à chien. C'est un manteau respirant, beaucoup utilisé pour la Yukon Quest. Chaque détail est pensé. C'est comme un velours à porter. C'est différent de tous les vêtements traditionnels. On porte quelque chose d'unique, de nordique. Partage le conseiller en entreprise, Olivier Pellegrin. Les parkas traditionnels. À l'origine, les parkas étaient fabriqués dans les régions arctiques à partir de peaux de phoque, de caribou ou d'écureuil. La richesse et l'importance d'une personne pouvaient être jugées par la qualité de son parka. La fourrure était portée vers l'intérieur et la peau vers l'extérieur, explique l'auteur Edna Wilder. Une couche supplémentaire extérieure en peau d'écureuil pouvait être rajoutée pour les parkas les plus luxueux, ajoute-t-elle. Ils étaient traditionnellement décorés avec un tissage de perles et la capuche était ornée de fourrure, notamment du carcajou, car cette dernière résiste au gel. L'utilisation d'intestins de phoque était courante pour ses qualités hydrofuges. Cette protection était essentielle pour les activités hivernales de pêche, chasse et cueillette. La confection des vêtements d'hiver était une activité fédératrice pour les femmes autochtones pendant les longs mois d'hiver. Elle permettait de transmettre un savoir-faire, notamment les techniques de couture traditionnelles avec aiguilles en ivoire ou en os et fils fabriqués à partir de tendons de caribou ou bison, mais aussi le tannage des peaux et la préparation des fourrures. Les parkas étaient pensés pour être pratiques et esthétiques, avec des motifs propres à chaque communauté. La fabrication de parkas a une importance spirituelle. Cela m'apporte énormément en tant que femme autochtone et m'a aidée à surmonter le chagrin et la perte récente de mon neveu. Une partie de moi s'illumine, retrouve goût à la vie grâce à cette pratique. Partage San Chok, une Gwich'in Wuntut qui confectionne des parkas à temps plein depuis 2022. Au Yukon, les parkas étaient portés et conçus par différents peuples autochtones tels que les Athabascans, les Tlingits et les Inuvialuits. Les explorateurs du Nord, trappeurs, missionnaires, baleiniers et chercheurs d'or ont adopté le parka au cours des siècles. Avec les échanges commerciaux, le matériel de fabrication du parka s'est parfois modernisé avec du coton épais, du polyester ou du Gore-Tex, toujours dans l'idée de créer le vêtement parfait pour résister au froid. Au 20e siècle, malgré la modernisation des procédés de fabrication et l'apparition des machines à coudre industrielles, les parkas continuent d'être conçus par des artisans utilisant les techniques de couture traditionnelles, notamment dans des coopératives. La confection demande environ une semaine. La découpe sur mesure et les finitions prennent plus de la moitié du temps, surtout si on veut décorer le parka. Pour un ornement de perles, on peut ajouter une semaine de travail, explique San Chok. Toutefois, le changement de mode de vie, notamment la raréfaction des chasseurs nomades dans la population, entraîne doucement la baisse de fabrication des parkas au Yukon. L'internationalisation des parkas yukonais avec Yukon Native. Au début des années 1970 et jusqu'en 1997, Katie et Paul Birkel, alors chef des Premières Nations de Champagne et d'Eschihic, ouvrent le magasin et une ligne de production Yukon Native par l'intermédiaire de la Yukon Indian Arts and Crafts Society pour mettre en valeur les talents des Premières Nations. Ils travaillent notamment en collaboration avec la Compagnie de la baie d'Hudson et vendent à l'international grâce au catalogue. Chaque commande est alors conçue à la main, les couturières pouvant travailler chez elles ou dans l'arrière-boutique du magasin de White Horse. En 1985, 500 personnes fabriquaient parka, mocassins, mouklouk et mitaines pour l'entreprise. Le parka du Yukon impose alors son style. Long, en coupe droite, souvent coloré, avec un revêtement extérieur hydrofuge et un duffel coat en laine duveteuse à l'intérieur. De la fourrure, principalement de renard ou de lièvre, est cousue au niveau de la capuche et de l'ourlet. Le vêtement est réputé pour sa durabilité grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité. Des symboles du Nord, en cuir ou brodés, sont généralement ajoutés en décoration. Ours, cervidés, arbres, chiens de traîneau. Les symboles peuvent aussi être représentatifs des clans ou de la personne qui porte le parka. J'ai, par exemple, cousu un parka avec des ours pour mon petit-fils, car son prénom signifie « ours » en Gwich'in. Partage, San Chok. Le retour du parka. Depuis quelques années, le Conseil des Premières Nations du Yukon propose des ateliers de confection de parkas offerts gratuitement aux Premières Nations grâce au service de préservation de la famille. Ces ateliers ont pour but de renforcer les familles et de nous réapproprier notre culture en suivant un enseignement traditionnel, explique San Chok. Après avoir suivi cet atelier, grâce à la formatrice Dorothy Wright, San Chok a perfectionné son savoir-faire pour pouvoir à son tour transmettre ses techniques traditionnelles. J'ai déjà donné un atelier et de nombreuses leçons particulières à mon domicile, ajoute-t-elle. Des ateliers de confection sont également offerts dans les communautés, les écoles, les centres culturels et lors de festivals comme celui d'Adaka à White Horse. Cette année, c'est Rosemary Gassner qui a formé une dizaine de Dawsoniennes à l'Université du Yukon. C'est un long apprentissage. Le prix était très abordable car le Yukon College souhaitait avant tout aider à la transmission d'un savoir typiquement yukonais et réunir des membres de la communauté au cœur de l'hiver. Le matériel, notamment la fourrure de renard que nous avons utilisée, est particulièrement coûteux, explique Rosemary Gassner. Marie-Ève Bégin a ainsi pu confectionner son parka sur mesure. « C'est la première fois que je fais de la couture comme ça. C'est beaucoup d'étapes de coudre, découdre, recoudre pour que cela s'ajuste. Après 60 heures de travail acharné, j'ai presque terminé. Je ressens une profonde gratitude pour Rosemary Gassner, pour sa patience, son soutien et ses astuces professionnelles partagées tout au long de l'expérience », s'enthousiasme-t-elle. Depuis une quinzaine d'années, Skookom, une entreprise yukonaise de fabrication de parkas cousus à la main sur mesure, a repris le flambeau en proposant des parkas traditionnels et modernes. Ils vendent aussi bien localement qu'à l'international grâce à Internet. Le petit succès de cette entreprise a été appuyé par Olivier Pellegrin. La compagnie a eu une très belle histoire. Un tiers des ventes est en Scandinavie, un tiers au Yukon et le dernier tiers dans le reste du Canada. À cause des concurrences de villes du Sud et étrangères, c'était presque impossible de développer une entreprise manufacturière au Yukon. À Dawson, c'est encore plus miraculeux, explique-t-il. Les parkas, parmi les autres vêtements que nous portons pour nous protéger des éléments, sont aussi l'occasion d'exprimer notre créativité et notre individualité. Qu'il s'agisse du choix des couleurs, des garnitures, du perlage ou du type de fourrure, le parka que nous choisissons de porter, en particulier dans une petite communauté, peut servir de repère pour savoir qui est qui lorsque nous sommes tous emmitouflés. Le style des parkas est également un indicateur de l'endroit où l'on vit dans le Nord. Et il est donc toujours amusant de voir des styles différents dans l'ensemble des régions arctiques et subarctiques. Partage la couturière Sally Demerchant, qui travaille pour la petite entreprise. Pour faire un parka adulte traditionnel à base de fourrure, il faut compter de 25 à 35 peaux de lièvre ou 40 peaux d'écureuil ou de 7 à 9 peaux de lynx ou 3 peaux de phoque. Pour orner la capuche, choisir entre le carcajou, le loup, le renard ou l'ours. Les peaux plus souples, comme celles du lièvre et du lynx, devraient avoir de la fourrure de carcajou aux extrémités pour protéger le vêtement, manches, capuche, bas du parka. C'était l'histoire des parkas du Yukon. Un texte d'Agnès Vigée paru le 9 juin 2023 dans l'Aurore boréale du Yukon.